posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur BFM Business pour ce nouveau numéro de l'atelier numérique. On est là chaque samedi 16h-18h et on est ravis d'être avec vous. Bonnes vacances aussi en ce 9 juillet si vous en profitez d'ores et déjà. Voilà, BFM Business qui est un peu partout en France et peut-être êtes-vous en train de nous écouter sur la plage à la cool. Vous avez bien raison, même si on vous envie un petit peu. On va passer donc 2 heures ensemble avec toute l'équipe de l'atelier qui est là. Tout à l'heure, Antoine Sien pour le crash test. Et autour de cette table, nous avons Aurore, Constance, nous avons aussi Cécile et même Sophia. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Et tout à l'heure, Lila Megraoua nous rejoindra. Notre start-up de la semaine aussi, notre enquête de l'atelier, on va s'intéresser à la livraison au dernier kilomètre, notre web stratégie aussi, on évoquera la web strat d'Interflora tout à l'heure, notre passion selon Sanette, les civic tech et puis notre French Tech Tour, on fera un point sur la publicité mobile en France et notre dossier de l'atelier qui nous emmènera du côté de l'agriculture connectée et puis la rédaction de zeronet.com tout à l'heure avec Eric Le Bourlou et le crash test donc d'Antoine Cyr et un décryptage aussi. Et puis Arnaud aussi qui sera avec nous et qui est d'ores et déjà avec nous au téléphone, que je salue par téléphone. Bonjour Arnaud.
Bonjour François.
Bravo, vous avez vu comme c'est beau les technologies quand même. On va retrouver Arnaud dans un instant pour l'une de ces news, mais on va débuter par, évidemment, l'une des filles qui est autour de moi. J'ai l'impression d'être Charlie avec ses drôles de dames, pour tout vous dire. Mais c'est plutôt agréable, je ne m'en plains pas. Et on va commencer par Constance.
Alors François, moi cette semaine, je vais vous emmener en Suède, voilà, pour voyager un petit peu, comme c'est le thème des vacances. Alors en Suède, il y a quelque chose d'assez spécial qui se passe en ce moment sur les routes, parce que les conducteurs peuvent voir des camions d'un genre un peu atypique, qui sont reliés par des câbles avec des caténaires, à la manière des trains. En fait, c'est depuis le 22 juin dernier, il y a 2 kilomètres de portions de route qui ont été installées en test au nord de Stockholm, pour du coup faire un nouveau genre de camion électrique. Alors c'est le groupe Siemens qui est à l'origine de cette initiative, avec un constructeur de poids lourd local qui s'appelle Scania. Et en fait, donc les camions pourront prendre l'énergie directement par le toit et ainsi se fournir en électricité. Alors il faut savoir que les coûts d'installation forcément sont très très élevés.
Oui, c'est comme si on avait un tram avec les fils électriques au-dessus.
C'est ça, sur toute la route. Mais par contre, en termes d'économie, il paraît que ça va quand même être assez substantiel. Alors Siemens a avancé des chiffres comme quoi la consommation en énergie de poids lourd va être diminuée par 2 et ça permettrait d'économiser 75 000 euros de carburant pour 200 000 km parcourus. C'est quand même assez conséquent. Et aussi même pour l'environnement, on peut imaginer que pour la qualité de l'air, ce sera aussi quand même assez intéressant. Alors si le ministère des Transports suédois est convaincu ensuite par l'expérience, ils ont décidé d'étendre ce principe à l'ensemble du pays. Alors il faut quand même savoir aussi que c'est dans le cadre d'un engagement de la Suède qui a décidé de rendre ses transports totalement indépendants de toute énergie fossile d'ici à 2030. Voilà, donc une bonne initiative dans le Nord que vous verrez si vous partez dans ce coin-là cet été.
Même si ça représente évidemment un travail titanesque, hein, puisqu'on peut imaginer qu'il y a des milliers de kilomètres de route.
Voilà, il n'y en a que 2 qui ont été faits, donc c'est le tout début.
Pour l'instant, c'est des petites livraisons. Voilà. Aurore Géraud.
Oui, moi je vais vous parler. Charlie.
Charlie. Oui.
Oui, allez-y. Charlie. Je vais vous parler.
Je vous écoute, drôle de dame.
Je vais vous parler de drones gendarmes.
Oui.
De drones gendarmes,
pourquoi
voilà. En Angleterre, on connaissait jusqu'à présent plutôt des drones de surveillance. On connaissait des drones qui aident pendant les catastrophes naturelles, par exemple, la police, les urgences. Aujourd'hui, donc Scotland Yard, j'aime bien l'idée de Scotland Yard, a décidé de lancer des drones qui partiront à la poursuite des délinquants. Donc des drones qui vont partir à la poursuite, donc soit de criminels en moto, soit de criminels à pied, principalement les personnes qui font des vols à la volée.
Des vols à la volée.
Et surtout, c'est suite en fait à un accident qui a eu lieu en 2014. Il y a un jeune homme qui était suspecté d'avoir commis un impair, et ce jeune homme s'est fait renverser en fait par la voiture de police. Donc ils ont décidé de vraiment changer la donne, sachant que quand même c'est un peu compliqué parce que l'aviation civile, les drones, c'est déjà au niveau loi, c'est un petit peu compliqué, mais en plus si on rajoute par la loi ce genre de choses. Et puis en plus, quand on pense aussi en Angleterre à tout ce qui est CCTV et surveillance, je pense qu'il
ça
va pas être très
beaucoup.
Facile. Après, c'est très peu cher hein, et ils envisagent de le coupler avec l'idée des hélicoptères de surveillance qu'on peut voir sur les autoroutes par exemple.
On va avoir de plus en plus de drones au-dessus de nos têtes, les amis, ça c'est certain. Arnaud, votre news de ce samedi.
Oui, alors cette semaine je suis allé à l'université d'été de la e-santé, j'ai découvert quelques pépites, et notamment BlockPharma qui propose, grâce à la blockchain, le fléau des faux médicaments qui font beaucoup de dégâts, notamment en Afrique. En effet, aujourd'hui chaque paquet de médicaments est prévu pour un marché uniquement, et les contrefaçons de médicaments recopient en fait ces emballages. La startup BlockPharma propose donc au laboratoire d'entrer chaque référence de médicament dans la blockchain pour permettre à chacun de voir si un médicament présente des risques de contrefaçon. Une boîte de médicaments scannée via l'appli par le patient permettra de sonder la blockchain, et si vous vous trouvez au Sénégal et que cette boîte de médicaments est censée être vendue en France uniquement, il y a de fortes chances qu'il y ait de la contrefaçon.
Et on en est où aujourd'hui ?
Alors, c'est encore à l'état de projet, mais il suffirait que le laboratoire joue le jeu, ce qui leur permettrait de gagner beaucoup d'argent, et puis aussi de mieux repérer où sont les fraudeurs. Comme quoi la blockchain pourrait aussi sauver des vies, et les laboratoires pharmaceutiques devraient s'intéresser à cette technologie, au moins tout autant que les banques.
Parfait, merci beaucoup Arnaud. Cécile ?
Alors Constance, vous parlez de camions, on a déjà vu des camions autonomes également, des voitures autonomes, mais très bientôt, et quand je dis très bientôt, je pèse mes mots, ce sont les bateaux qui vont se piloter presque tout seuls. C'est le géant Rolls-Royce qui a annoncé que d'ici 2020, ses cargos de marchandises navigueront sans équipage. Donc vraiment, quand je vous dis bientôt, c'est demain en fait quasiment. Dans les cartons de Rolls-Royce...
En 2020.
Dans les cartons Rolls-Royce, on trouve des drones de reconnaissance qui permettront notamment d'anticiper des changements climatiques en mer ou de, par exemple, prévoir des obstacles, mais également de la réalité virtuelle grâce à des capteurs, des caméras HD, des radars, des sonars, bref, plein de...
La totale,
pour aider à guider les bateaux depuis un centre de contrôle qui, lui, sera sur la terre ferme. Vous aurez même des projections en hologramme des navires en mer, donc je trouve ça assez rigolo. On s'imagine le film un petit peu futuriste. L'intérêt de ces cargos autonomes, car ce seront des cargos évidemment de marchandises, sera de libérer l'espace qui était autrefois dédié à l'équipage et qui ne sera plus là, afin d'augmenter la capacité de stockage des navires. C'est aussi, selon Rolls-Royce, plus de sécurité contre, par exemple, la piraterie. On a deux limites cependant. Un, évidemment, la réduction d'équipage justement qui pose un petit peu problème parce qu'on se demande, ils pourront pas tous être sur le centre de contrôle, donc est-ce qu'on va pas avoir des suppressions d'emplois ? Mais également la responsabilité en cas d'incident, une question qui se pose de plus en plus sur tous les véhicules autonomes aujourd'hui, qu'ils soient terrestres ou non. Et enfin, des tests sont en cours actuellement en Finlande avec un simulateur virtuel et un programme de recherche qui coûte quand même presque 7 millions d'euros. Et je vois que vous êtes étonné François parce que c'est bientôt en 2020 qu'a annoncé cette innovation. Mais Rolls-Royce explique qu'en fait, la mer est bien plus facilement praticable que la Terre, puisqu'il y a beaucoup moins de voiries et de voies, tout simplement. C'est une vaste étendue d'eau, alors que pour la France ou même pour la Terre, je veux dire,
c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà,
il y a
plus
les
de
panneaux,
voiries, il faudrait
routes,
faire beaucoup, voilà. Beaucoup d'infrastructures. C'est pour ça que c'est plus simple et plus rapide pour la mer.
Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide.
Moi non
plus. C'est quand même assez impressionnant. Merci beaucoup. Sophia ?
Alors moi, je vais vous parler de lunettes dont les verres deviennent opaques. Vous allez me dire, mais à quoi bon porter des lunettes si c'est pour ne rien voir ?
Mais à quoi bon alors, Sophia ?
Eh bien, pour se déconnecter. Pour arrêter d'être en permanence obnubilé par son téléphone, sa tablette, son ordinateur ou encore sa télévision.
On tire le rideau, quoi.
Voilà, on se dit tout le temps qu'on devrait le faire plus souvent, qu'on devrait davantage être dans la vraie vie. Eh bien, les lunettes screener sont justement faites pour cela. À la vue d'un écran, les verres s'assombrissent. Et cela fonctionne d'une manière assez simple. En fait, les verres de lunettes sont recouverts d'un film intelligent en plastique opaque qui devient transparent une fois alimenté par une charge électrique. Donc en même temps que les lunettes, l'utilisateur doit porter une webcam sur le front, et grâce à un programme informatique et au machine learning, la webcam est capable de repérer les écrans et à leur contact d'envoyer un message aux verres qui s'obscurcissent instantanément, et ce, jusqu'à ce que l'utilisateur détourne le regard. Donc pour résumer, l'inventeur de screeners utilise la technologie pour aider les personnes qui le souhaitent mais qui manquent de volonté à s'éloigner de la technologie.
C'est beau, franchement. Et quand il n'y a plus de batterie dans les lunettes, qu'est-ce qu'on fait alors ? On se reconnecte.
On ferme les yeux.
Oui, c'est ça. Constance ?
Alors moi, je vais continuer sur ce sujet pour les addicts au téléphone qui veulent continuer à les regarder avec des lunettes normales. Alors qu'est-ce que vous diriez si jamais vous pouviez manipuler votre téléphone par les yeux ? Ce serait quand même pas mal, non ?
sans avoir à le toucher.
En clignant des yeux, en suivant comme ça, en tournant.
C'est ça, par exemple, en clignant pour valider, en suivant du regard l'écran. Alors, pour le moment, c'est encore assez proche du scénario de science-fiction, mais on s'en rapproche quand même, parce qu'il y a des chercheurs du MIT, de l'Université de Géorgie et de l'Institut Max Planck en Allemagne, qui sont en train de travailler sur un logiciel qui permet de se servir des technologies eye-tracking sur téléphone mobile. Alors, pour le moment, la précision, c'est de 1 cm sur smartphone et 1,7 cm sur tablette. Alors, quand on voit la taille d'un smartphone qui est, je sais pas, on va dire 5 sur 12 à peu près, on se rend compte qu'il y a encore une grande marge de progrès et c'est pas encore utilisable aujourd'hui. Mais pour l'instant, ils ont fait des tests sur 1500 volontaires avec l'application Gaze Capture et ils disent que si jamais ils ont 10 000 personnes de plus, ils arriveront à réduire la précision à 0,5 cm, ce qui permettrait donc de se servir déjà des technologies eye tracking pour le téléphone mobile. Donc on pourrait imaginer par exemple de jouer à des jeux vidéo grâce à son regard ou même tout simplement de cliquer, de valider sans servir de ses mains. Et mieux encore, parce que les chercheurs disent que ça pourra peut-être avoir un usage médical et servir pour des diagnostics par exemple de tout ce qui est schizophrénie, en demandant aux patients de regarder à certains endroits de l'écran et voir en fonction du clignement des yeux, des mouvements, s'il n'y a pas une pathologie qui peut être détectée. Par contre, ils préviennent que même si on est en train de s'améliorer et que ça va arriver, ça ne pourra non plus jamais être au pixel près, il y aura quand même toujours des erreurs si on veut se servir de ce système-là.
Ça me fait penser à l'histoire du scaphandre et du papillon, tu sais, où la personne qui est complètement bloquée physiquement ne peut parler qu'avec des clignements de l'œil. Du coup, je me dis que ça pourrait être la version technologique du scaphandre et du papillon.
Tous les deux.
Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que pour les personnes handicapées, de pouvoir interagir sur un écran simplement en clignant des yeux, ça pourrait avoir du sens.
Surtout sur des écrans plus grands comme des tablettes, là, ça, c'est encore plus fiable quand même, du coup.
Exactement.
Parfait.
C'est une belle innovation.
Oui. C'est bien. Oui, Cécile.
Je vais continuer sur un tout autre sujet, du coup. Mais on va quand même parler de se déconnecter, comme avait commencé Sophia. Vous connaissez, je pense, le plus grand mal des concerts aujourd'hui. Le problème des concerts en 2016, c'est quoi, François ?
C'est le son qui est trop fort, enfin.
Non, ça, c'est parce que vous êtes vieux. Ah, mais c'est pas grave.
Merci, Cécile.
C'est les gens trop grands.
Presque. C'est les personnes avec leur téléphone portable en l'air et on voit plus du tout la scène puisque tout le monde a son téléphone pour filmer ou prendre des photos. C'est vraiment devenu une grosse pathologie.
Ça vous gêne, ça, vous ?
Ah oui, quand même. On peut plus. Pourquoi pas profiter du moment présent, en fait, tout simplement.
Oui, c'est vrai.
Il y a même Adèle récemment qui a interpellé un des spectateurs en disant mais pourquoi tu me filmes avec ton téléphone ? Je suis là, profite. Bref, tout ça pour dire que Apple a eu vent de ce
le spectateur est parti. Il était vexé. Il est parti.
C'est ça. Non mais il a filmé quand elle lui a parlé, en fait. Il l'a mis sur Instagram.
Il a posté sur YouTube. Il a eu plein de visionnages.
Exactement.
On vit une belle période quand même, les amis. Époque. C'est bien ça, franchement.
Du coup, c'est Apple qui a décidé de faire quelque chose contre ce problème et qui vient de breveter un moyen d'empêcher la prise de photos par les téléphones. Il suffit d'installer un énorme brouilleur, une espèce de gros brouilleur qui va faire des interférences dans les salles de concert grâce à des signaux infrarouges. Ce brouilleur va envoyer des messages au smartphone lorsque l'usager va ouvrir l'appareil photo et va déconnecter l'enregistrement des images. C'est-à-dire que techniquement, vous pouvez toujours prendre la photo, mais Apple réussit à bloquer son enregistrement, donc ça ne marche plus. Apple propose également un autre applicatif à cette innovation. Les mêmes signaux infrarouges pourraient être utilisés pour servir, par exemple, dans les musées. Vous passeriez devant une œuvre et le fait de se tenir debout plusieurs secondes devant l'œuvre enverrait un signal infrarouge grâce encore une fois à un capteur et vous recevriez des messages avec plus d'informations sur une œuvre, sur ce que vous êtes en train de regarder. Donc plusieurs applications et surtout à la fin des smartphones pendant les concerts et moi j'en suis bien contente.
Oui, mais cela dit, il ne faut pas aussi interdire les gens de faire des photos pendant un concert. Et si on brouille, si on commence à brouiller les smartphones.
Peut-être qu'on peut limiter, par exemple, c'est-à-dire qu'on fait une ou deux photos et après, hop, le capteur se bloque ou quelque chose comme ça, mais on peut trouver des solutions.
Et moi, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas un temps d'adaptation ? On se souvient que quand le portable était. Alors, vous étiez trop jeune à l'époque, je le sais, ma chère Cécile, mais quand les portables sont arrivés dans le cinéma, ça sonnait tout le temps. Il y avait des gens qui décrochaient même dans la salle pendant que le film était diffusé. Et puis après, il y a eu une autorégulation. Et est-ce qu'on peut pas imaginez que là, comme ça fait que quelques années finalement qu'on prend des photos dans les concerts, peut-être petit à petit, les gens vont comprendre que ça sert à rien et qu'il vaut mieux en profiter, non ?
Vous avez encore foi en l'être humain, François, c'est beau.
Peut-être. Bon, on verra bien. Aurore, un prochain événement pour l'atelier ?
Oui, on voulait parler un petit peu du Hello Tomorrow Global Summit qui aura lieu les 13 et 14 octobre. Donc, c'est un petit événement coup de cœur. On vous demande juste de le marquer dans vos tablettes puisque c'est une spécialité sur la science et les nouvelles technologies.
Très bien. C'est quand ?
13 et 14 octobre.
13 et 14, oui, on a le temps.
À Paris.
On pourra en reparler à la rentrée.
Au 104, oh oui, on a le temps.
On a le temps, mais bon, c'était juste comme ça. Là, parce que vous êtes à la cool, un peu en vacances, notez-le sur votre agenda. Voilà, c'est pour vous rappeler que bientôt, bah, c'est la rentrée, il va falloir travailler.
On travaille.
Très bien. Sophia.
Alors, encore une... Pardon.
Non, je vous en prie.
500 000, c'est un chiffre un peu choquant parce que c'est le nombre de personnes qui contractent la dengue hémorragique tous les ans.
Ah oui, là tout de suite, c'est un sujet plus important.
Ah oui, là je vous parle de e-santé, je suis désolée, c'est moins joyeux.
On va terminer, voilà.
Et sachant qu'en plus, 20% d'entre eux en meurent, c'est vraiment pas drôle.
Non.
Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des avancées dans ce domaine-là. Donc si pour l'instant il n'y a ni vaccin, ni réel traitement pour cette maladie, un peu comme pour le virus Zika, les choses avancent de plus en plus. Jusqu'ici, les pays à risque, les autorités surveillaient les moustiques vecteurs de la maladie et demandaient aux populations d'essayer de s'en protéger. Mais ça c'était avant l'invention de l'intelligence artificielle M. C'est AIME, donc AIME ou M. Et avec cette technologie, les pouvoirs publics pourront détecter une épidémie et connaître son ampleur 3 mois avant son déclenchement. En fait, l'idée, c'est que, au lieu de tenter de stopper la progression d'une maladie, les autorités vont pouvoir agir avant même que l'épidémie ne démarre pour éviter qu'elle ne se déclenche. Donc, pour l'instant, la technologie a été testée au Brésil et en Malaisie et a obtenu des résultats probants à presque 90% quand même. Donc, l'idée, c'est de dire quelle est la probabilité qu'une épidémie se déclenche dans un rayon de 400 mètres. Et pour cela, l'algorithme prend en compte 11 variables comme la météo, la géographie des lieux ou encore des données de santé publique. Donc, pour l'instant, l'intelligence artificielle prédit la dengue, mais l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser pour contrer d'autres épidémies comme la tuberculose, la malaria ou même le sida. Et le but, bien sûr, ce serait de sauver des vies.
Voilà. Oh, c'est beau. Voilà, non, je crois qu'on va arrêter là parce que franchement, sauver des vies. Alors c'était un peu lourd au début, hein, comme c'était une news un peu, hein, voilà.
J'aurais dû vous prévenir.
Mais oui, peut-être, je sais pas, mettre un truc, hein, vous avez un parental advisory là, comme il y a à la télé, enfin un truc comme ça. Alors je vous propose de rester avec nous parce que l'atelier ne fait que commencer. On revient dans un instant avec le Silicon Carnet et les gadgetos. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, c'est dans un instant, nous retrouverons les gadgetos. Mais auparavant, eh bien, c'est Arnaud que nous retrouvons, Arnaud Auger. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Arnaud pour le Silicon Carnet. Et aujourd'hui Arnaud, on va évoquer la reconnaissance d'image et l'intelligence artificielle avec vous.
Oui François, en effet, les GAFA, mais aussi beaucoup de start-up, créent de nombreuses solutions de reconnaissance visuelle grâce à l'intelligence artificielle. Et Google vient d'ailleurs de racheter une start-up française, Moustox, qui développe des algorithmes permettant d'avoir le Shazam de l'image.
Le Shazam de l'image. Alors déjà, la reconnaissance d'image, de quoi s'agit-il exactement, Arnaud ?
Eh bien, il s'agit tout simplement de la capacité pour la machine de comprendre, d'analyser et d'interpréter des images. En effet, si pour l'œil humain, l'interprétation est souvent évidente, à la base, pour une machine, n'importe quelle image n'est qu'une série de pixels, et en ce sens, pas facile pour elle de faire la différence entre votre photo et celle de la Tour Eiffel, et encore moins entre votre photo et celle de Brad Pitt.
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence, là, typiquement.
En effet, exactement. Donc, c'est très difficile, on a besoin d'une intelligence artificielle très poussée. Et justement, c'est ce qu'on a réussi à faire depuis plusieurs années maintenant. Les logiciels permettent d'analyser les structures de photos. Et donc, vous pouvez voir maintenant que quand vous essayez de prendre une photo avec votre smartphone, vous avez dû voir des ronds autour des visages, voilà, parce qu'on reconnaît directement les visages. Et de la même façon, quand vous publiez une photo sur Facebook, le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg suggère automatiquement les amis à taguer. Donc, vous pouvez faire le test, et si vous êtes ami avec Brad Pitt, on verra s'il vous propose de vous taguer à sa place. Enfin, la reconnaissance d'image, c'est aussi ce qui permet à Snapchat de vous proposer des masques d'expression. Donc, quand vous filmez, en suivant vos traits de visage de manière dynamique, de vous faire ressembler à un pirate ou un panda, par exemple. Il ne faut pas le cacher, c'est aussi ce qui fait le succès de Snapchat, qui aujourd'hui a dépassé Twitter en nombre d'utilisateurs quotidiens.
Bon, finalement, la reconnaissance d'image, c'est sympa, c'est marrant, mais est-ce que ça reste, est-ce que c'est pas qu'un gadget finalement ?
Eh bien non, parce que si tout le monde parle de la révolution de la voiture autonome, celle-ci passe d'abord par la reconnaissance d'image. Et cette semaine, il y a eu malheureusement le premier mort à cause d'un accident dans une voiture autonome, plus précisément une Tesla en pilote automatique. Et si les conclusions de l'enquête restent encore à déterminer, on suspecte le logiciel d'image d'avoir du mal à reconnaître, notamment lorsqu'il fait très beau, la différence entre le blanc éclatant des nuages et celui du camion en face. Donc les logiciels de reconnaissance d'image peuvent être éblouissants, mais aussi éblouis. Et s'ils ne marchent pas bien, et bien, ils peuvent coûter des vies.
C'est la reconnaissance d'image, donc pour l'instant, c'est pas si fiable que ça, on est d'accord, hein ?
Alors, évidemment, il y a beaucoup de challenges à relever. Et c'est sûr que l'analyse d'images en mouvement, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais il y a des choses qui marchent déjà très bien. Et par exemple, Mastercard a développé une solution pour payer en faisant un selfie. En effet, quel meilleur moyen d'authentifier que c'est bien moi qui effectue un paiement qu'en montrant mon visage plutôt que d'entrer un code que tout le monde peut copier.
Et ça, c'est vraiment sympa. Quelles sont les autres innovations que l'on peut imaginer dans le futur avec la reconnaissance d'image, Arnaud ?
Ben, on peut imaginer des startups qui puissent évaluer le nombre de calories d'un plat pris en photo. On peut imaginer de ne plus avoir besoin de badge pour entrer dans les bureaux de son entreprise parce que notre visage est directement reconnu par les caméras de surveillance. On pourrait d'ailleurs justement permettre à toutes les caméras de surveillance de reconnaître les personnes recherchées comme des terroristes. On peut imaginer aussi apprendre au logiciel à analyser une blessure et à donner une première recommandation sur une simple photo. Et enfin, Mark Zuckerberg a déjà lancé une version de Facebook pour les aveugles avec le logiciel qui décrit tout ce qu'il y a dans les photos. On pourrait, du coup, d'une certaine manière, imaginer une solution pour les aveugles qui interpréterait tout ce qui se passe autour d'eux en temps réel. Donc le potentiel, la reconnaissance d'image est infini et vous et sourire, vous êtes analysé.
Merci beaucoup Arnaud. Et après le silicone d'Arnaud, on enchaîne avec la sélection de gadgeto des filles de l'atelier et on va commencer par Constance.
Oui François. Alors je sais pas.
Elle a levé le doigt Constance. C'est comme à l'école. Elle voulait commencer.
Professeur François.
Elle a levé le petit doigt. C'est mignon. Je vous en prie Constance, allez-y.
Merci François. Alors la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous parlais d'une application qui permettait de traduire le langage des bébés. Alors pour continuer sur cette lancée, je suis très bébé en ce moment. Je vais vous parler de d'un nouvel appareil connecté.
C'est pas ce qui se passe.
C'est ça.
L'été arrive.
Donc oui, je vais vous parler d'un nouvel appareil connecté de Nest qui va sortir un berceau connecté. Alors le berceau va être équipé en fait de capteurs qui vont permettre de traquer les mouvements de l'enfant, sa température ou encore voilà quand il dort. Ça c'est assez classique, mais il y aura aussi des capteurs d'air qui vont vous permettre de savoir si le bébé tousse, éternue, vomit. Et même si sa couche a besoin d'être changée. Alors par exemple, voilà, si vous avez le nez bouché, c'est quand même assez pratique. Ça vous permet de le savoir quand même.
Enfin bon, on a encore les yeux hein, pour le voir aussi.
Certes,
ça se voit.
Mais bon. Alors, les capteurs pourront aussi prévenir les parents si jamais le bébé agit de manière inhabituelle, si jamais ils doivent être alertés. Et en fait, voilà, c'est un brevet pour le moment qui a été déposé par Nest. Et dans ce brevet, il y a aussi donc des solutions pour calmer le bébé. Par exemple, si jamais il crie trop, lui mettre des berceuses pour essayer de l'apaiser un petit peu, ou projeter des dessins animés sur le mur, enfin sur les barrières plutôt du berceau. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça barrière, mais voilà.
Génial ce lit pour bébé.
Voilà,
attendez.
Pour le distraire. Pareil, si jamais vous avez envie de faire une grasse matinée jusqu'à 8 heures, voilà, quand on est parent, vous pouvez aussi, le berceau va déclencher des lumières qui vont tamiser la pièce pour que votre enfant se rendorme, enfin, voir si ça marche encore. Alors, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de date de sortie ni de prix, comme c'est vraiment au stade de brevet. Par contre, on peut quand même se demander si pour la relation parent-enfant, ça risque pas de nuire au lien si on décide, voilà, de mettre le berceau en mode enclenché
voilà,
et puis, voilà, on fait une grasse mat et...
Y a Nes qui s'en occupe.
C'est ça.
Hein voilà, c'est
non,
cool.
Mais on rigole, mais je pense que pour les parents qui sont angoissés et qui se réveillent la nuit, par exemple, plusieurs fois afin d'aller voir si l'enfant est toujours en vie, cette angoisse un peu irrationnelle, ça peut peut-être être vraiment utile de savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, d'automatique qui va vous dire tout de suite si l'enfant a un problème.
Encore faut-il que ça marche bien, que ce soit irréprochable.
Bien sûr.
Quoi.
On peut aussi se demander si du coup, les parents vont pas suivre tout le temps traquer l'activité et au contraire devenir parano,
voilà.
Encore plus avec tous les chiffres.
Il y a la dérive possible.
Et c'est ça. Cécile.
Alors, je ne vais pas du tout vous parler de bébé aujourd'hui, mais plutôt de mes jours de famille. Malgré tout, je vous présente un nouveau robot, j'adore les robots, qui pourrait se révéler très utile dans certaines familles touchées par des traitements chroniques, parce qu'il s'agit de Pilo, un robot pharmacien familial. Donc, sous la forme d'un petit personnage, Pilo est un distributeur de médicaments intelligents. Il est relié à une appli smartphone dans laquelle on va rentrer en une seule fois tous les éléments de traitement médical de la famille. Donc, ça peut être, je sais pas, de l'arthrite pour la grand-mère, du diabète ou autre. On rentre tout. Et ensuite, avec le machine learning, Pilo va reconnaître les voix et les visages des habitants pour donner à chacun les pilules dont il a besoin aux horaires définis.
Il faut pas qu'il se trompe.
Mais c'est pour ça qu'on le rentre en une fois. Il faut être sûr que ce soit bien flap pour reconnaître les visages. C'est vrai que, par exemple, Constance et moi, des fois, la reconnaissance faciale nous confond, puisqu'on se ressemble un petit peu.
Imaginez
donc,
que vous ne deviez pas prendre les mêmes pilules.
Faudrait faire attention.
Ça peut être embêtant.
Mais ce robot est américain et donc il commande même vos nouveaux médicaments avant qu'il n'y en ait plus, chose qui ne serait peut-être pas possible en France, mais en Amérique, comme les médicaments sont un peu plus facilement procurables. Pilo va aussi discuter avec vous et apprendre au fur et à mesure. Par exemple, il va rappeler à l'habitant qu'il doit prendre un médicament avant de manger ou pendant le repas, vous savez, certaines particularités. Et vous pourrez discuter avec lui et lui poser des questions. S'il n'a pas la réponse, il prendra contact avec un professionnel de santé pour vous. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un assistant médical, pas juste un dispositif. Donc,
Donc on peut penser que ça peut s'adresser surtout aux familles, mais également aux personnes âgées qui ont souvent des traitements multiples, et aux hôpitaux, pourquoi pas, en tant qu'assistant d'infirmière. Donc pour finir, ce robot peut contenir 250 cachets, soit environ 4 semaines de traitement pour une famille, d'après les créateurs. Il est en campagne sur Indiegogo et sera commercialisé fin juin 2017 au prix de $600 quand même.
Voilà, donc pour l'instant c'est plutôt réservé aux US, parce qu'on sait que c'est en ça. France, tout l'aspect médical est beaucoup plus régi, on va dire.
Exactement.
Beaucoup plus encadré, donc il faudra attendre encore un petit peu pour que ça arrive en France. Merci beaucoup, Cécile. On revient dans un instant à la suite de cet atelier avec notre start-up de la semaine et notre enquête de l'atelier. On va parler de cette nouvelle tendance de la livraison au dernier kilomètre avec, entre autres, Amazon Prime Now qui a été lancé à Paris il y a quelques jours de cela. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre enquête de l'atelier. On va parler de la livraison au dernier kilomètre avec nos invités. Ça, c'est véritablement, on se rend compte, une stratégie intéressante. Mais auparavant, notre start-up de la semaine avec vous, Aurore Géraud. Vous nous faites découvrir cette semaine la Coolco.
Alors, pour la start-up de cette semaine, je suis en compagnie de l'équipe de la Coolco. Bonjour à tous les deux d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis en compagnie de Carlos Santana Jr., qui est donc directeur général de la Coolco, ainsi que Antoine Baird, qui est président créateur industriel diplômé de l'ENSI. Dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière le nom la Coolco ?
On a développé des objets open source pour le monitoring et le contrôle d'environnement de croissance pour les plantes. Un mélange entre hardware, software et pédagogie.
C'est une serre connectée. Donc, qu'est-ce qu'on en fait actuellement ? Quel est votre marché ?
Alors aujourd'hui, donc, on a un premier kit, le Petit Cool, qui est une serre connectée justement. Et donc on donne la possibilité, le mode d'emploi pour fabriquer à la fois l'électronique et pour après, via une application, pouvoir utiliser les recettes pour chaque type de plante. Donc vous aurez juste à installer votre graine de basilic et après la machine s'occupe de tout faire tourner pour que vous puissiez profiter en toute tranquillité et regarder vos plantes pousser.
Et du coup, vous êtes plutôt B2B, B2C. Est-ce qu'on peut imaginer un commerce derrière ?
Pour tout ce qui est B2B, en fait, nous, on va essayer de toucher à toutes ces entreprises qui ont besoin de systèmes faits sur mesure et aussi plutôt ouverts de captation d'informations d'environnement. Donc là, en l'occurrence, on est à la saison 2 d'Innove & Connect, donc en partenariat avec le chocolatier Semois, qui cherche des solutions pour le monitoring de leur plantation de cacao en Côte d'Ivoire. Et pour le public B2C, nous avons un produit qui est en phase de développement final, qui doit sortir en septembre, donc dans quelques mois, qui est un premier kit à monter soi-même de captation d'informations sur les plantes, donc la température, l'humidité du sol, de l'air, la luminosité. Ces kits-là, il a plutôt une visée pédagogique et surtout grand public. Donc, c'est quelque chose vraiment à monter avec ses enfants pour donner une première initiation et à la botanique et à l'électronique.
Comment on se retrouve ici, en fait, à faire quelque chose d'open source sur le domaine du végétal, en fait?
En fait, c'est très simple. Ces projets, donc cette entreprise, elle est née d'un projet, et ce projet, il est né d'un besoin très pratique que moi et Antoine, étant coloc, on avait. Donc c'est ça. À chaque fois qu'on partait, nos plantes, elles crevaient, mais presque immédiatement. Donc le plus important pour nous, c'était de proposer une solution, de créer une solution qui pouvait répondre à nos propres besoins. Et en n'ayant aucune connaissance dans le domaine, on a pu trouver toutes les informations nécessaires sur Internet dans le domaine public grâce aux démarches open source. Donc du coup, c'est pour ça que nous aussi, on essaye, plus que de vendre un produit, on essaye de vendre une démarche, une activité, pour permettre aux gens de créer aussi leur propre système s'ils ont besoin, et de connaître plus sur la vie des plantes et de le prendre aussi en compte comme des êtres vivants, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Nos chats, nos animaux d'estimation, on sait très bien qu'il faut s'en occuper parce qu'ils sont demandeurs d'attention, mais nos plantes, on le voit absolument pas comme des êtres vivants. Donc notre but aussi, c'est de, grâce à l'électronique, permettre aux gens de voir les plantes comme des êtres vivants et s'en occuper d'une autre manière.
Vous parlez de données, de capteurs. Est-ce qu'on peut s'imaginer, allez soyons fous, un réseau social de plantes ?
C'est le but, c'est le but. Si on pense que chaque plante est un individu à part entière, pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça. Pour l'instant, ce qu'on propose, c'est de créer une communauté en fait où les gens ils peuvent échanger sur leurs plantes et sur leurs recettes, enfin pour faire pousser leurs plantes spécifiques. Mais à terme, l'intention, ça serait exactement d'avoir des plantes qui peuvent dire ce qu'elles sentent, qui peuvent dire ce dont elles ont besoin et qui peuvent communiquer directement avec les gens. Donc l'intention, c'est vraiment ça.
Aurore, merci. Et place à notre enquête de l'atelier maintenant sur BFM Business. On va parler de ces nouveaux entrants comme Amazon Prime Now et de la livraison au dernier kilomètre, Lila Megrawa, avec nos invités.
Mais oui, tout à fait. On a, comme vous le disiez, François, l'arrivée d'Amazon Prime Now en France.
Vous dites Prime Now, vous ?
Oui, Prime Now.
D'accord, ouais, c'est bien. Non, c'est,
son service Prime, à savoir une livraison express gratuite en 2 heures pour ses abonnés premium ou payante en 1 heure. Une autre tendance corrélée au boom du e-commerce, c'est l'apparition de consignes automatiques de livraison, notamment les abricolis d'InPost. Alors, on va en parler avec deux experts. Pierre-Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors, Pierre-Denis, vous êtes expert de la grande distribution et vous avez fondé Retail Explorer, qui est une filiale de ce local group. Et vous êtes spécialisé dans l'observation des prix du marché de la grande distribution. Et Thomas Garnesson, bonjour.
Bonjour.
Alors Thomas Garnesson, vous êtes directeur commercial et stratégie réseau d'InPost. Alors, comme je disais, chez Retail Explorer, vous venez de publier un baromètre des prix des grandes enseignes de la distribution cette semaine. Alors vous observez, vous avez également une vision sur Amazon Prime. Alors, il y a différentes réactions face à la lancée de ce service. Il y a la mairie de Paris qui a hurlé un peu contre le lancement. Patrick Robin dans le journal du Net qui a déclaré que Amazon Prime serait la pierre tombale des grands distributeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre-Denis ?
Alors écoutez, la pierre tombale, je pense qu'il faut peut-être pas aller trop vite. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que quand on voit la qualité de service d'Amazon et leur capacité à délivrer la promesse qu'ils ont dit et partout dans le monde, je pense que quand même, il faut les prendre au sérieux. Et je crois qu'il faut toujours voir ça à court terme avec Amazon et puis plus long terme. Quand on regarde à court terme et qu'on voit que notamment dans Amazon Prime Now, il y a de l'alimentaire, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce métier-là, quoi ? Parce que dans ce métier en France, la caractéristique de tous ceux qui existent, qui sont des Auchan
Direct... Oui, parce que voilà, le commerce de l'alimentaire en ligne existe depuis 15 ans.
Existe depuis 15 ans, voilà. Et leur caractéristique, c'est qu'ils ont quand même toujours perdu de l'argent.
Oui, les Ouras, les Auchan,
Shop, c'est compliqué, aussi. C'est difficile et ils ont toujours eu beaucoup de mal. Donc on peut se dire, mais pourquoi vont-ils là ? Et en fait, si ça, court terme, on se dirait, mais à mon avis, c'est peut-être pas un bon choix. Mais un peu moyen terme, c'est de se dire que grâce à ça, grâce à ce service-là, ils vont attirer à nouveau des clients et qu'ils vont attirer vers leur cœur de business, qui est le non-alimentaire. Et donc, ils misent sur la qualité du client, sur la valeur du client dans la durée. Et c'est en cela que c'est probablement quelque chose qui va bousculer le marché. Alors, on a parlé là des intervenants en ligne, les Auchan Direct, mais d'une certaine manière, le commerce de proximité peut être touché. Parce que, par facilité, parce qu'il y a l'abonnement, puis que c'est un peu addictif, une fois que vous êtes dedans, bah, vous êtes peut-être envie de continuer.
Et puis parce qu'il y a le mobile aussi, qui est formidable pour ça. Ouais. Une application, on choisit, on appuie sur un bouton, et c'est réglé 2 heures après, vous avez un livreur, peut-être même avant 2 heures, ouais. Un livreur qui arrive chez vous, quoi.
Oui, c'est très facile d'usage.
Alors, quand vous parlez de commerce de proximité, est-ce que vous pensez aux petits commerçants ? Est-ce que les cris d'orfraie de la mairie de Paris sont justifiés ?
Ouais, mais pour l'instant, en alimentaire, il y a 1743 produits, d'accord ? Ça reste encore limité. Maintenant, c'est toujours pareil, Amazon, il y a le départ et puis l'arrivée. Et puis, il n'y a pas de produits frais, il n'y a pas de boucherie fraîche, il n'y a pas de fruits et légumes. Donc, et puis, le commerce de proximité à Paris, c'est quand même des grandes enseignes. C'est plutôt un Carrefour City, un Franprix, un Leader Price, plutôt que le commerce de proximité. Il faut pas se... Là, c'est un combat d'il y a 15 ans, je crois. Et puis, je crois pas que Amazon soit tout de suite en train de faire de l'Amazon fraîche, comme ça s'est fait en Californie. Je pense pas que c'est leur pari.
Mais ça va arriver, non ?
Ça va arriver, mais s'ils ont pas commencé par ça, c'est que c'est peut-être pas si probant que ça, déjà là où ils l'ont tenté en Californie. Ouais. Ils y vont peu à peu. Et on voit très bien que c'est toujours, ils testent, ils améliorent, ils changent, ils testent, ils améliorent. Nous, on suit les prix d'Amazon depuis des années. Et ce qui est étonnant, c'est leur capacité à changer, par exemple, leur assortiment produit, c'est-à-dire le choix de produits d'une semaine sur l'autre. Ils vont enlever 4000 produits, ils vont en remettre 2000. Donc, ils connaissent pas forcément très bien le métier de distributeur, notamment alimentaire.
Mais ils évoluent au quotidien pratiquement. Ils vont évoluer. Ils affinent.
Exactement. Ouais, exactement.
Est-ce que vous pensez que ce lancement d'Amazon Prime pourrait donner un coup de pied aux fesses de certains distributeurs pour vraiment améliorer leur service? Leur service de livraison à domicile, qu'est-ce que ça va changer?
Je pense que la facturation du service de livraison à domicile, à un moment donné, va tomber. C'est-à-dire que soit les mêmes distributeurs qui sont aujourd'hui concurrents vont passer sur un système d'abonnement, qui est un très bon système finalement, soit ils ne pourront plus le facturer. C'est-à-dire qu'on dit toujours que ça coûte cher la livraison, ce qui est vrai, sauf si vous gardez votre client pendant longtemps. C'est un
bien sûr
ça.
Il faut arriver à les fidéliser. Compris Amazon, parce que rappelons que pour bénéficier de ce service Amazon Prime Now, il faut être abonné au service Amazon Premium qui englobe plein de services.
Exactement.
Du cloud, je sais plus ce qu'il y a d'autre, il y a je crois des bouquins aussi en illimité, et puis donc la livraison gratuite. Voilà, c'est ça.
En fait, le calcul d'Amazon, c'est la valeur totale du client. Et c'est pas simplement la valeur de l'achat. Alors les grands distributeurs font la même chose. Donc est-ce que ça va les bousculer? Réponse, oui. Parce qu'ils vont devoir aller plus vite, mais il faut pas les sous-estimer. Si on regarde dans le monde la manière dont ça se passe, les pure players dans bien des domaines se font rattraper par les brick and mortar. C'est-à-dire que les gros mammouths finissent par se secouer et y arriver. Mais c'est compliqué.
Alors Thomas Garnesson, vous adressez un autre problème de la livraison express ou pas avec InPost, à savoir vous adressez le manque de disponibilité des acheteurs à récupérer leurs colis, quand ils passent un achat en ligne.
Tout à fait.
Vous développez chez InPost des consignes automatiques de livraison. Mm-hmm. C'est ça.
En fait, quand on parle dernier kilomètre, il y a un vrai sujet, un vrai problème sur le fait de récupérer son colis. Très souvent, en fait, tout autour de la table, la plupart des gens ont dû avoir des petits papiers du transporteur, quel qu'il soit, qui dit le livreur est passé, vous n'étiez pas là, je repasserai demain. Alors il y a des points relais qui se sont créés, qui sont une bonne alternative, mais qui ont, vu qu'il s'agit de boutiques, des horaires d'ouverture et de fermeture,
oui,
et donc qui forment une certaine contrainte. Nous, en fait, on a créé sur le marché un réseau de consignes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où en fait ce n'est pas le consommateur qui doit effectivement trouver une manière de récupérer son colis plus ou moins facilement, mais où le colis attend le consommateur.
Donc
et
je
le consommateur
peux venir à 3h du matin récupérer mon colis.
Exactement.
Voilà.
À 3h du matin, alors je vous rassure, la plupart des gens viennent plutôt à des horaires classiques.
C'est ça.
Mais clairement,
des horaires classiques, mais pas forcément des horaires d'ouverture de commerce.
Pas forcément des horaires d'ouverture de commerce.
Ça peut être
21h, ça peut être 7h du matin, où effectivement le bureau de poste, les points relais et les commerces en général sont fermés. Donc on est une alternative effectivement automatique qui permet d'avoir cet accès absolument quand vous le souhaitez à vos colis.
Et alors aujourd'hui, on peut les trouver où ces consignes automatiques?
Alors, on travaille toujours avec des partenaires qui vont nous fournir des emplacements. On a 1050 emplacements qui sont déjà déployés ou qui sont en cours de déploiement jusqu'à la fin de l'année. Et on vise 2000 emplacements d'ici 2018. Donc ensuite, sur tout le territoire, on est présent aussi bien en Île-de-France qu'en province, aussi bien sur des très grandes métropoles que sur des plus petites villes. Voilà, on installe vraiment des consignes pour mailler tout le territoire.
Alors, vous avez déjà annoncé certains partenariats commerciaux avec différents distributeurs de proximité, commerces de proximité comme Monoprix, mm-hmm. Ou moins comme e-Leclerc. Et plus étonnant avec Mondial Relais. En quoi c'est complémentaire?
Alors, il faut distinguer les partenariats avec des emplacements. Donc, ce que vous avez cité, Monop, on bosse aussi avec Casino, un partenaire historique. On travaille avec Total. On a annoncé, puis on en annoncera encore pas mal. Je pense qu'un jour, on travaillera avec tous les distributeurs qui finalement sont sur le marché.
Même La Poste?
Alors, tous les distributeurs, tous les distributeurs et commerçants.
Non, mais ça serait La Poste, ça serait
ensuite,
pas mal.
Ensuite, on a un deuxième type de partenariat, effectivement, c'est des acteurs du transport.
Vous n'avez pas qu'on parle de La Poste, visiblement.
Si, Il n'y a pas de problème. La Poste ou d'autres transporteurs, typiquement Mondial Relais rentre dans cette deuxième catégorie, qui sont des transporteurs qui peuvent vouloir effectivement rajouter les consignes à leur offre de service pour avoir une expérience complémentaire. Et c'est le cas de Mondial Relais qui typiquement effectivement trouvait ça intéressant de mettre à disposition de leurs clients sur la même carte, sur le même service, de rajouter en plus des points relais classiques, de rajouter effectivement des consignes automatiques.
Est-ce que demain on pourrait trouver ces consignes partout, par exemple en aéroport, dans mon immeuble, devant chez mon gardien? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces consignes soient opérées directement par les communes, par les collectivités locales? Est-ce que ça c'est des pistes
On voit ce genre d'évolution. Nous, on a commencé par effectivement des distributeurs qui nous prêtent un emplacement effectivement devant leur magasin. On a été approché par pas mal de villes aussi qui sont intéressées. On a remporté un appel à projet de la ville de Paris pour installer des consignes sur la voie publique. Donc des villes qui s'intéressent à décongestionner leurs rues, à mutualiser et à massifier les livraisons. Et pourquoi pas aussi effectivement sur des promoteurs immobiliers pour installer ce genre de consignes dès la conception des immeubles. On commence à voir ça.
C'est-à-dire qu'il y aurait des boîtes aux lettres plus, pourquoi pas, un emplacement avec
des boîtes à colis. La difficulté, c'est qu'il faut des boîtes à colis qui soient à la fois, alors qu'ils peuvent pas être personnels parce que sinon ça prendrait trop de place, et qu'ils soient mutualisés et qu'ils soient accessibles de manière automatique. Donc ça nécessite effectivement tout un système qu'une poste propose.
D'accord. Donc là, c'est connecté, c'est ça?
Enfin, tout à fait. C'est connecté sur deux réseaux GSM. En temps réel, vous avez effectivement le système qui va interroger votre numéro de colis et qui va voir effectivement que c'est bien vous qui êtes réceptionnaire, destinataire du colis.
Et ce service a un coût?
Alors, le service, nous, on le facture aux e-commerçants. Donc, c'est les e-commerçants qui vont payer le service comme ils vont payer un autre transporteur, comme ils vont payer à la Poste ou vont payer un transporteur privé.
Mais il y a un surplus pour ce service, pour le consommateur ou pas?
Il n'y a pas forcément de surplus. C'est-à-dire que nous, dans notre équation économique, on a le transport qui est sous-traité à certains transporteurs. Et puis, on a aussi la partie consigne, ce qui est un investissement. Donc là, une consigne coûte un certain prix et qu'on va amortir sur des années et des années, effectivement, colis par colis.
Très bien, mais merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. Pierre Denis de Retail Explorer, merci beaucoup, et Thomas Garnesson d'InPost. Merci.
Et vous restez avec nous, merci. Dans un instant, ça sera notre web stratégie face à la concurrence. Interflora revoit ses modèles de livraison. On va rester dans la livraison. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Avant de parler des Civic Tech, ce sera dans un instant dans notre passion selon Sanet. Je vous propose de retrouver notre web stratégie. Et on va s'intéresser cette semaine à Interflora qui, face à la concurrence, revoit ses modèles de livraison. Or, Géraud.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Alors, pour la web strat de cette semaine, je suis en compagnie de Cyril Kittel, qui est directeur marketing et e-commerce chez Interflora. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes rencontrés à l'occasion des Big Boss Summer Event. Et donc, première question, la question de la web strat. Quand est-ce que vous êtes digitalisé? Quand est-ce qu'on digitalise plutôt ce métier ancestral du fleuriste?
Ancestral, effectivement, Interflora a inventé la transmission florale il y a 70 ans. Interflora, c'est 45 000 fleuristes partout dans le monde, 145 pays pour être plus précis. En France, c'est 5200 fleuristes qui nous permettent de livrer le jour même de la commande en moins de 4 heures. Et nous réalisons près de 1,7 million de bouquets par an. On a trois canaux de distribution. Notre réseau, composé de 5200 fleuristes, où chacun d'entre nous peut effectivement transmettre d'un point A à un point B. La transmission étant faite par le fleuriste et l'exécution par un fleuriste partout dans le monde. Le téléphone, qui est effectivement un formidable outil aujourd'hui pour accompagner nos clients dans leur choix, le conseil. Certaines occasions demandent évidemment un conseil plus important que d'autres. Et troisième canal important, Internet. Internet qui s'est développé depuis 98 avec la création du premier site www.interflora.fr et qui a su avec son temps évidemment répondre aux attentes des consommateurs, aux évolutions aussi des comportements. Le site a été rendu marchand très rapidement avec une forte accélération, je dirais, à la fin des années 2000 pour aujourd'hui, en 2016, représenter 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise. 65% des commandes sont effectuées aujourd'hui sur le site internet. un site desktop, un site mobile. Le mobile a été lancé dès 2011. Nous avons d'ailleurs obtenu un prix pour cela, le meilleur site e-commerce mobile par Google. On est assez fiers pour une première année de mise en ligne. Et le mobile pèse à peu près 20%. 20% du business se fait aujourd'hui sur le mobile, et on constate une formidable évolution, évidemment, qui correspond aussi au taux d'équipement de chacun des mobinautes.
Alors, on a vu arriver sur le marché depuis quelques années d'autres de la concurrence, avec par exemple Aquarelle ou Florajet. Comment actuellement on lutte entre guillemets face à cette concurrence? Comment on se démarque?
Alors, Interflora est leader depuis 70 ans. Comment ils luttent évidemment par rapport à ça. Je pense que on est aussi sur des métiers un petit peu différents, même si effectivement la transmission florale, le cœur de métier est là. On est quand même sur des activités différentes, des façons de faire différentes. Interflora, c'est la beauté des bouquets, c'est la conception par des artisans créateurs qui sont 5200 en France, qui créent par rapport à des collections, évidemment, qu'on réalise, qu'on conçoit avec eux. Ce qui fait que, aujourd'hui, on a vraiment un travail de réflexion et de concertation avec l'ensemble de ces fleuristes créateurs qui, comme ligne directrice, l'amour du travail bien fait, le travail du produit floral, l'harmonie des couleurs, la qualité de la réalisation. Et aussi beaucoup de diversification, parce que, nos clients, aujourd'hui, nous réclament d'autres produits, des petites attentions qu'on peut évidemment associer aux produits floraux. C'est une diversification qu'on opère depuis maintenant 2 ans. C'est des produits qu'on associe comme du champagne, comme un cadeau, une bougie, comme un nounours Harry ou comme une boîte de chocolat. Voilà, un joli écrin de chocolat qu'on peut livrer aujourd'hui avec l'ensemble de nos produits floraux et avec un certain succès.
Je crois que vous misez aussi votre grande qualité, c'est que vous misez sur un service client très proche du client.
Alors, le service client Interflora, c'est aussi une forte valeur ajoutée pour nos clients. C'est un service qui existe depuis maintenant de très très nombreuses années. Interflora ne pourrait pas être Interflora sans aussi ce service, cet accompagnement qu'on propose aussi à nos clients. Le site web est une chose, mais il y a de nombreuses commandes aussi qui s'effectuent entre une consultation sur le site web et un appel ensuite. Pourquoi ? Parce qu'on distribue, on véhicule beaucoup d'émotions en permanence, des émotions, toutes sortes d'émotions pour différentes occasions. Et certaines occasions, évidemment, nécessitent un conseil plus précis, nécessitent aussi une relation humaine. Et c'est grâce à aujourd'hui un plateau composé de 60 collaborateurs sur Lyon. C'est effectivement un service client qui est internalisé à Lyon et qui répond évidemment au téléphone, aux emails, au chat, qu'on peut aussi déployer. Et il y a un vrai accompagnement, un vrai rôle de conseil. Tous nos conseillers sont aujourd'hui formés justement au métier floral, à l'activité florale et aux produits qu'on peut proposer. Voilà, sur un catalogue de presque 300 produits proposés par notre réseau de fleuristes.
On avait reçu il y a quelque temps Pizza Hut qui nous parlait de la concurrence et que sa manière de se démarquer aussi, ça pouvait être la livraison. Et vous, la livraison, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, la livraison est évidemment au cœur de notre activité. Interflora est aussi connue évidemment pour son service des livraisons le jour même, qui est possible grâce à notre maillage important de 5200 fleuristes en France. Ce réseau de fleuristes nous permet de livrer le jour même, nous permet de livrer en moins de 4 heures partout en France, mais aussi et surtout depuis quelques semaines maintenant, un nouveau service de livraison que nous venons de mettre en place pour aussi répondre à des nouvelles attentes consommateurs à l'heure où on parle beaucoup d'ubérisation de l'économie collaborative, participative, d'Amazon qui déploie son service de livraison premium en 1 heure ou 2 heures. Interflora, c'est aujourd'hui la possibilité aussi de faire livrer son bouquet partout en France en moins de 90 minutes.
Est-ce qu'on peut s'imaginer à un certain point qu'on puisse géolocaliser le livreur? Alors je demande ça parce qu'on parle de beurre, on parle aussi de Pizza Hut qui a lancé ça en Israël. Est-ce qu'on peut l'imaginer?
Je pense que c'est une suite logique, évidemment, de nos services, suite logique en termes logistiques, où effectivement les habitudes qui commencent à se créer, évidemment, par Uber, vous l'avez cité, mais d'autres encore. Et puis le client a besoin aujourd'hui d'avoir, je dirais, une expérience la plus enrichie possible, la plus proche de lui, qui lui ressemble. Et donc aujourd'hui, il va évidemment aller vers des services qui peuvent le proposer, ou en tout cas tendre vers un service à très forte valeur ajoutée.
Donc vous parlez du client, on voit vraiment cette volonté de le placer au centre. Qu'est-ce qu'il en est pour vous des réseaux sociaux? Je sais que votre community manager a beaucoup d'humour. Est-ce que ça fait partie aussi de l'expérience Interflora?
Alors, la stratégie réseaux sociaux est pleinement intégrée, je dirais, à notre communication. Aujourd'hui, la marque Interflora se doit d'être sur les réseaux sociaux, mais l'être est une chose, être active et avoir une vraie stratégie aussi de différenciation en est une autre. Interflora est une marque forte, une marque connue, reconnue. Dernier étude de Ipsos nous donne à 97% de taux de notoriété. Mais effectivement, Interflora a aussi une marque plus ancienne qui a aussi un besoin d'apporter de la modernité. Les réseaux sociaux en font partie. Les réseaux sociaux sont importants parce qu'on y trouve aussi d'autres segments de clientèle qui sont aujourd'hui pour nous importants. Les jeunes qui sont aujourd'hui évidemment nos clients, surtout de demain, et qu'on a besoin aujourd'hui de séduire, évidemment, avec aussi une communication un peu différente, une communication un peu disruptive, pour être un peu aussi dans les codes attendus.
Aurore Géraud, merci. On revient dans un instant avec notre French Tech Tour. On fera un point sur le marché de la publicité mobile, notre dossier d'atelier, et puis dans une minute, ce sera notre passion selon Sanette. À tout de suite.